Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Rosalie Suc, mais aussi Marc Bolloridon et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Suite de notre série consacrée au nouvel élan de l'Union européenne, après avoir parlé du départ manqué de la future commission lundi, puis de la politique environnementale hier, et avant d'évoquer l'avenir de l'Union européenne sans la Grande-Bretagne, place à l'économie. Soutenir l'économie, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Le Conseil des gouverneurs réaffirme la nécessité d'une politique monétaire très accommodante pour une période prolongée afin de soutenir les pressions inflationnistes sous-jacentes et l'évolution de l'inflation globale sur le moyen terme. Les risques entourant les perspectives de croissance de la zone euro demeurent baissiers.
Je suis d'accord avec l'opinion du Conseil des gouverneurs. Une politique souple est garantie sur le long terme afin de maintenir l'inflation sous le fameux seuil inférieur mais proche des 2%.
S'il y a une chose dont je suis fier, c'est la manière dont le Conseil des gouverneurs et moi-même avons constamment respecté notre mandat. C'est quelque chose dont nous pouvons collectivement être très fiers. D'une certaine manière, c'est une partie de notre héritage. Ne jamais renoncer. Never give up.
Lundi dernier, l'Italien Mario Draghi a passé le relais de la BCE, la Banque Centrale Européenne, à la Française Christine Lagarde, qui prendra ses fonctions vendredi prochain. Avant de partir, le futur ex-directeur a annoncé un certain nombre de mesures, tout en incitant les États membres à agir pour relancer leur économie. Cette économie, effectivement, est aujourd'hui en perte de vitesse, avec un PIB dans la zone euro qui a augmenté de seulement 0,4% au premier trimestre, et même de 0,2% au second trimestre. Alors, comment soutenir cette croissance européenne? Quels outils, quels mécanismes pourraient être utilisés? En matière monétaire d'abord, quelles seront les marges de manœuvre de la nouvelle patronne de la BCE? Pourra-t-elle appliquer les mêmes recettes que son prédécesseur? Et au-delà de la BCE, quels sont les projets de la nouvelle commission européenne dirigée par l'Allemande Ursula von der Leyen en matière budgétaire, industrielle? Ce sont des questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités ici avec nous au plateau. Jésabelle Coupé-Souberan, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, Blabla Banque, Parlons Banque en 30 questions. On mettra évidemment tout cela sur le site de Culture Monde. Francesco Sariciano, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous directeur adjoint du département d'études de l'OFCE. D'abord, première question, Jésabelle Coupé-Souberan, Christine Lagarde, c'est la bonne personne, le bon profil pour prendre la suite à la BCE. Évidemment, elle est compétente, c'est pas du tout une question. Hein. Elle est même très compétente, ça se sait. Mais est-ce qu'elle a le bon profil?
Oui, elle a plutôt le bon profil. Son expérience au FMI lui a permis, me semble-t-il, d'acquérir une expertise en macroéconomie monétaire et financière. Et ça lui a permis aussi, sans doute, d'acquérir une sensibilité qu'elle n'avait peut-être pas auparavant, à savoir une sensibilité au problème d'instabilité financière, au problème d'instabilité dans le secteur bancaire et financier. Et ça, ça va quand même être sacrément utile, hein, ensuite, pour la conduite de la politique monétaire, parce que oui, on a besoin d'une politique monétaire accommodante, mais on a besoin de surveiller les effets de cette politique monétaire accommodante sur le secteur bancaire et financier. Christine Lagarde étant sensible à ça, peut-être qu'elle veillera justement à ouvrir un peu la boîte à outils, ou en tout cas à ce qu'on l'ouvre pour elle, et à faire en sorte que la politique monétaire dont elle aura la conduite s'articule mieux avec une politique de prévention des déséquilibres financiers et à ce que tout cela vienne également s'articuler avec un autre volet majeur de la politique économique qui fonctionne très mal en zone euro, à savoir la politique budgétaire.
Bon, voilà, vous avez un peu posé les termes du débat. On va regarder justement quels sont les outils. On va regarder ce qu'on peut attendre en matière justement budgétaire. Francesco Sariciano, même question, bon profil ou pas? Et puis, allons un tout petit peu plus loin. Il semblerait qu'il y ait aujourd'hui au sein de la BCE un certain nombre de dissensions, divergences, de tensions, notamment au sein du Conseil des gouverneurs, mais qu'est-ce qu'on en sait précisément? Et est-ce qu'une fois encore, Christine Lagarde est la bonne personne pour justement apaiser un peu la situation?
En fait, je partage totalement l'opinion de Jésabelle. Je pense que les doutes qui avaient plané sur Christine Lagarde au tout début étaient plutôt du machisme caché. et de la, du mépris pour son, le fait qu'elle n'était pas un économiste, mais elle a fait ses preuves pendant très longtemps ici en France comme ministre des Finances et après au Fonds monétaire. Donc elle a acquis toute, elle a, il n'y a aucun doute sur sa compétence et sur sa capacité de comprendre non seulement les enjeux de la politique monétaire, mais de la politique macroéconomique plus, de façon plus basique.
Je suis totalement... Au sein des institutions, personne ne doute de sa compétence. Hein.
Absolument, absolument. Non, non, c'était plutôt dans les débats, pas que français par ailleurs. Et, ceci dit, moi j'ai un seul doute, c'est-à-dire que bon, je ne sais pas si on fera le bilan de Mario Draghi après, mais Mario Draghi a été fondamental pour l'euro à trois ou quatre occasions pendant ses huit ans à la tête de la Banque centrale. Et quand il a été fondamental, il a dû tordre des bras. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il est passé en force à l'intérieur du Conseil et il a dû mettre... c'est la première fois qu'à la Banque Centrale Européenne, par exemple, on a voté à majorité des mesures très importantes. Vous voyez, et qu'on l'a fait savoir, surtout. Alors, sur ça, j'ai un peu de doutes. C'est-à-dire, le seul doute que j'ai sur Christine Lagarde, c'est qu'elle est quelqu'un qui cherche beaucoup le consensus. Mmh. Et elle a été capable de les trouver au Fonds monétaire, finalement. Les jours où ce consensus ne se trouvera pas, qu'est-ce qu'elle fera? Est-ce qu'elle sera capable de tordre les bras de Weidmann? Ça, c'est une question que je me pose.
De se transformer d'une certaine manière en acteur politique?
Et du coup, d'acquérir un rôle pas que technique, mais politique. Ça, c'est ma seule petite inquiétude, donc qui répond aussi à votre deuxième question. Qu'est-ce qu'il sera des tensions qu'on a aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne? D'un côté, on peut espérer, mais bon, il y a encore un long chemin à faire, que l'appel à la politique budgétaire qui a été fait depuis 2014 par Mario Draghi, qui est devenu très pressant au cours des derniers mois, soit enfin... que les gouvernements fassent leur part et donc ça soulage un peu la Banque centrale et donc du coup c'est peut-être ça soulage un peu les tensions et puis il faudra voir si l'économie continue à ralentir, du coup ces mesures que Draghi est en train de mettre en place seront encore plus justifiées et probablement les tensions s'estomperont aussi.
Justement, je voudrais qu'on en vienne, Jezabel Coupet-Soubeyran, à ces dernières mesures prises le mois dernier par Mario Draghi, mais vous vouliez réagir, je vous laisse réagir en quelques mots.
Non, juste pour dire qu'il y a deux façons finalement d'arriver à ces fins. Soit on passe en force, soit on essaie de construire un consensus. Elle aura peut-être le talent de construire ce consensus, parce que certes, Mario Draghi a pu obtenir parfois des décisions en passant en force, mais ça s'est quand même traduit par quelques démissions. Et est-ce que véritablement on a construit un consensus au sein de la Banque Centrale Européenne pour refonder la politique monétaire? Pas vraiment. Donc voilà.
Jezabel Coupet-Soubeyran, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les dernières mesures, visiblement assez critiquées en tout cas par certaines personnes, prises par Mario Draghi? Alors, il y a visiblement une relance des rachats de dettes publiques, il y a la baisse des taux de dépôt de moins 0,4% à moins 0,5%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces décisions, pourquoi elles ont été prises et pourquoi elles sont critiquées? Et faites œuvre de pédagogie, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas très bon en économie. Merci, je s'appelle Coupet-Soubeyran.
Alors, effectivement, il y a quelques jours, le 24 octobre, il y a eu une dernière réunion de politique monétaire, de décision de politique monétaire, et ce qui a été confirmé, eh bien, ce sont toutes les décisions qui ont été prises le 12 septembre dernier. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? Première chose, ce qui a été décidé, c'est de maintenir le taux principal de refinancement, c'est-à-dire le taux auquel la Banque centrale apporte des refinancements aux banques, le maintenir à 0%, de façon à ce que les conditions de refinancement des banques soient très assoupli, le plus assoupli qu'elle puisse être, et que ensuite, eh bien, les banques répercutent ces conditions sur leurs propres conditions de crédit.
On facilite les banques, c'est-à-dire qu'on va faciliter les crédits dans les banques traditionnelles,
malheureusement, ce n'est pas aussi direct que cela. Donc, si vous voulez, il y a un canal de transmission un peu compliqué. Et quand les banques se refinancent à 0%, eh bien, c'est pas pour autant qu'elles vont complètement relancer la machine du crédit. Et puis même, on peut s'interroger aussi sur le fait de vouloir renoncer à tout prix la machine du crédit. Il faut que le crédit soit relancé au bon endroit, pour les bons acteurs, ceux qui créent de la croissance et de l'emploi.
Raison pour laquelle il est critiqué ?
Oui, en partie. J'y reviendrai. Alors ça, c'est juste une des mesures. Ce qui a été décidé également le 12 septembre, c'est d'abaisser un peu plus encore un autre taux directeur qui est le taux auquel les réserves des banques sur leur compte à la Banque centrale sont normalement rémunérées. Maintenant, elles ne sont plus rémunérées, elles sont pénalisées. Ce taux a été abaissé à moins 0,50%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les banques sont incitées à faire bouger, si vous voulez, ces liquidités, à les utiliser. Alors attention, il ne faut pas s'imaginer qu'en fait, les liquidités qu'elles ont sur leur compte à la Banque centrale, elles peuvent directement les prêter à l'économie. En fait, ce sont des liquidités qui tournent sur le marché interbancaire. Et pour ne, justement, pour faire en sorte qu'elles ne les laissent pas dormir sur leur compte à la Banque centrale, eh bien, ces réserves sont pénalisées de façon à ce que les banques puissent se les échanger davantage sur le marché interbancaire. Et là encore, normalement, quand il y a plus de facilité d'échange comme ça sur le marché interbancaire, lorsque les prêts et emprunts interbancaires s'intensifient, eh bien, c'est censé avoir un impact indirect sur la création monétaire des banques. Donc ça fait partie des décisions. Autre décision importante, la relance du programme d'achat d'actifs qui avait été mis en sommeil après avoir été débuté en 2015. Donc ça, c'est la politique monétaire non conventionnelle à la mode américaine, à la mode de la Fed. La BCE avait mis un certain temps avant de s'y convertir, mais en 2015, après avoir résolu justement quelques dissensus au sein du Conseil des gouverneurs, on s'y était mis. Ça a donné des achats massifs de titres de dette publique essentiellement, mais un peu de titres de dette privés également sur les marchés obligataires. Là, le programme est relancé à hauteur de 20 milliards d'euros par mois.
Alors, Francesco Saraceno, précisément, au regard de ce qui a été décidé le mois dernier par Mario Draghi, peut-être d'abord votre vision sur ces dernières mesures, et puis plus largement sur désormais ce qu'il reste aujourd'hui dans les mains de Christine Lagarde pour jouer et pour soutenir précisément cette économie. Compte tenu de l'environnement avec une croissance qui est assez faible, compte tenu précisément de cette histoire aussi des décisions qui ont été prises en matière de politique monétaire ces derniers mois, ces dernières années, que reste-t-il aujourd'hui à Christine Lagarde pour essayer de soutenir cette économie?
Pas grand-chose. C'est pour ça que Christine Lagarde s'est tout de suite mise dans la même mouvance que Draghi. Elle a demandé que la politique budgétaire vienne soutenir la Banque centrale.
Elle l'a dit ce matin chez nos confrères d'RTL.
Elle avait aussi dit quand elle a fait l'audition au Parlement. Donc
il faut que les pays qui sont excédentaires relancent, et en particulier l'Allemagne.
Moi, j'irais même un peu plus loin, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. C'est précisément ça. Moi, j'avais écrit un papier il y a quelque temps que j'avais appelé la Banque Centrale Européenne le protagoniste, malgré soi, de la pièce théâtrale européenne. Moi, je pense que la Banque Centrale a été tirée par les cheveux dans la crise parce qu'elle était bien contente de ne pas mettre en place toutes ces mesures. Et en fait, elle a été tirée au-devant de la scène par l'inertie des gouvernements depuis 2012-2013. Donc, avec toutes les difficultés politiques que Draghi a eues pour mettre en place ces politiques. Donc, aujourd'hui, la marge est encore plus réduite. Comme Jezabel le disait, pratiquement plus que rendre gratuit l'argent pour les banques et les pénaliser si elles ne les font pas circuler, on ne peut pas faire. Oui, on peut encore baisser un tout petit peu les rythme. On est vraiment arrivé au bout de ce qu'on peut faire. Les achats des titres aussi toucheront bientôt à leur fin, ou bien il faudra les repenser parce qu'en fait, il y a des pays pour lesquels il n'y a plus de dettes à acheter, précisément parce qu'ils en émettent plus, notamment l'Allemagne. Et donc, on est dans une situation où la Banque Centrale Européenne est vraiment à bout de course. Donc, elle peut continuer à rester comme ça, on ne peut pas imaginer qu'elle pousse encore plus. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le relais doit absolument être pris par les pays de la zone euro qui fassent une relance. Les pays qui ont de la marge, surtout, on pense notamment à l'Allemagne qui fait de la consolidation budgétaire qui n'a aucune justification, ni de soutenabilité des finances publiques, ni de besoin d'investissement, etc. Mais moi, je dirais même que vu le niveau des taux, il faudrait aussi peut-être être un peu moins demandeur sur l'effort de consolidation aux pays qui ont de la dette plus élevée. Je pense à la France et je pense à mon pays, l'Italie aussi.
Jezabel Coupé-Soubéran, sur le constat que finalement aujourd'hui Christine Lagarde n'a plus tellement de marge de manœuvre. Et sur la question de savoir si les États sont prêts effectivement ou non à faire de la relance. Parce que c'est vrai que depuis des années, on est quand même sur une logique de l'austérité. L'Allemagne est quand même très claire sur ce point-là. Est-ce que vous imaginez qu'effectivement, demain, Merkel mise sur la relance alors que ce n'est pas tellement ce qu'elle nous a laissé entrevoir ces derniers temps ?
Mmh. Bon, y a plusieurs aspects dans la question. Est-ce que véritablement la politique monétaire est à bout de course ? Si on raisonne toujours dans le même cadre, la réponse est oui. Mais si on essaie justement de sortir un peu du cadre et si on essaie d'identifier quels sont les problèmes actuels de la politique monétaire, cette politique monétaire, finalement, elle ne parvient pas à bien transmettre ses effets à l'économie réelle. Elle n'est pas vraiment connectée sur les besoins des citoyens. C'est une politique monétaire qui a permis de sauver les banques et les marchés. Mais est-ce que ça a vraiment permis d'installer un nouveau modèle de croissance suffisamment inclusif, suffisamment soutenable ? La réponse, bien entendu, est non.
Donc il faut ouvrir et regarder s'il n'y a pas d'autres outils. Je vous vois arriver à l'horizon avec votre hélicoptère. Je me trompe ?
Ça fait partie des idées.
Alors la monnaie hélicoptère. Vous nous expliquez la monnaie hélicoptère ce que c'est, Isabelle Coupé-Souverain, parce que c'est quelque chose qui visiblement est un tout petit peu tabou, fait un peu peur. Et vous, c'est une solution visiblement que vous préconisez. De quoi s'agit-il ?
L'idée, c'est que on pourrait, si vous voulez, s'affranchir du canal de transmission que sont les banques pour la politique monétaire. Quand la banque centrale refinance les banques à taux zéro, elle attend que ses effets se transmettent par le canal bancaire. Ça marche pas bien. Et lorsque elle achète des actifs sur les marchés, eh bien, au fond, si vous voulez, ça se traduit par des baisses de taux, par des montées de prix d'actifs. Ça profite. Ça profite aux États qui peuvent s'endetter plus facilement. Ça profite aux grandes entreprises. Ça profite très peu aux petites entreprises. Ça profite très peu aussi aux ménages, du moins aux plus modestes. Alors les ménages riches, eux, ils voient leur portefeuille gonfler en valeur, ils voient leurs actifs immobiliers prendre de la valeur. Donc tout ça a des effets
ça
très très différents.
Ça ruisselle pas bien.
Ça ruisselle pas bien, exactement. Donc, que peut-on faire ? Bah, faire en sorte que cette monnaie centrale aille directement se transformer en dépenses, et notamment en dépenses de consommation pour soutenir le pouvoir d'achat.
Donc on donne de l'argent directement aux ménages.
En fait, si vous voulez, alors en théorie,
en pratique
j'imagine que ça, c'est sans doute beaucoup plus compliqué, mais en théorie, rien n'empêcherait la banque centrale d'émettre, comme elle émet des billets, d'émettre des sortes de bons d'achat, d'accord, que les citoyens de la zone euro devraient dépenser, par exemple, dans les 3 mois. Alors bien sûr, il y a un design un peu compliqué, sans doute, à imaginer, parce que, en tout cas, il y a des conditions, si vous voulez, parce que il faudrait que ce bon d'achat soit effectivement dépensé, sinon ça vient pas augmenter la dépense de consommation. Il faudrait également que ce soit dépensé dans des produits fabriqués par les producteurs nationaux pour que ça stimule bien la production nationale. Il faut pas que ce soit dépensé en produits trop polluants, etc. Mais on peut tout à fait imaginer cela.
On peut tout à fait imaginer ça. Aujourd'hui, à la BCE, on l'imagine pas tellement quand même.
Mario Draghi, c'était une fois exprimé sur le sujet en disant qu'il trouvait que l'idée n'était pas inintéressante.
Mais pas d'actualité, avait-il dit.
Mais pas d'actualité, mais ça va le devenir, précisément parce que si on continue de raisonner dans le cadre, on est à bout de souffle. Et puis il y a une autre façon de renouveler complètement la politique monétaire, et Christine Lagarde s'est pas encore beaucoup exprimée sur la politique monétaire, mais elle l'avait évoquée devant le Parlement, elle est d'accord avec cette idée-là, c'est repeindre en vert la politique monétaire.
Alors, peut-être qu'on y viendra. Francesco Saraceno, sur cette monnaie hélicoptère, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est une idée qui avait été popularisée par Milton Friedman en 1969. Alors, c'était pas la sienne, d'autres l'avaient évoquée déjà avant, mais voilà, c'est vrai que c'est lui qui l'avait quand même assez largement démocratisée, donc elle vient pas de nulle part. Quand Jezabel Coupé-Souverain nous la présente, c'est extrêmement séduisant. Tout le monde va avoir de quoi s'acheter à peu près ce qu'il veut. Tout le monde est pour. Alors, comment se fait-il qu'on n'ait pas déjà pris cette mesure, et est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques à la clé?
Il y a des difficultés techniques, comme Jezabel le disait. C'est pas assez facile dans un modèle sur papier, c'est un peu plus difficile à le mettre en pratique. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, ça serait une façon. En fait, il y a débat sur lequel moi, je ne prends pas de position parce que je n'ai pas les compétences sur les effets redistributifs du quantitative easing, de cet assouplissement quantitatif. Il y a clairement des effets sur les taux qui pénalisent les épargnards, qui par ailleurs expliquent pourquoi les Allemands sont aussi opposés. Il y a des effets sur les prix des actifs, qui donc donnent des avantages à ceux qui possèdent les actifs, qui sont d'habitude les plus riches. Donc il y a des effets qui...
Juste pour les auditeurs, hein, le quantitative easing, c'est de l'achat massif d'obligations d'État.
Pour inciter les États à distribuer des crédits ou de grandes entreprises. Ce ne sont pas les États qui distribuent des crédits, mais ce sont des achats effectivement d'actifs sur les marchés, sur les marchés de la dette publique et de la dette privée.
Je ferme la parenthèse.
C'est le deuxième volet des politiques non conventionnelles qu'évoquait Jezebel à l'instant. Et donc c'est clair qu'une mesure comme ça permettrait de cibler les bas et les moyens revenus, et donc ça serait beaucoup plus facilement. Moi, je ne vois pas d'inconvénient majeur. Il y a, comme vous pouvez imaginer, une résistance parce que c'est quand même quelque chose qui sort un peu du ressort de la politique monétaire traditionnelle. Donc il y a des résistances.
Ça a déjà été fait, ça ?
L'hélicoptère monnaie ? Oui. Non, c'est vrai que c'est l'idée est complètement théorique et vous l'avez mentionné. Milton Friedman avait une représentation exclusivement monétaire de l'inflation. Donc pour lui, si vous voulez, pour baisser l'inflation, il faut réduire la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, et pour l'augmenter, quand on est dans une situation où justement on manque d'inflation, ce qui est la situation actuelle, il faut créer davantage de monnaie. Comment créer davantage de monnaie ? Il ironisait un peu en disant bah voilà. On met un hélicoptère dans le ciel et on lui fait déverser des quantités de monnaie.
Sauf que la monnaie se transforme en inflation, se transforme en dépense. Et donc c'est pour ça qu'il faut après les faire.
Ça tombe bien parce qu'effectivement, on a un taux d'inflation visiblement qui est trop bas.
Trop bas, exactement.
Ouais. On est à quoi ? On est à zéro. Pour le mois de septembre, on était à 0,9% et je crois que la BCE vise plutôt juste au-dessous des 2%. Ouais. Donc ça permettrait de faire l'inflation.
Oui, tout à fait. Ce serait sans doute assez inflationniste. Et on pourrait même, d'ailleurs, on pourrait imaginer que cette distribution soit conditionné par l'évolution du taux d'inflation. C'est-à-dire que quand on arrive à la cible de la Banque centrale...
On arrête de larguer les billets.
Voilà. Il ne faut pas être complètement démago.
Il ne faut pas larguer les billets tout le temps. En case de papel, il les faisait pas avec des hélicoptères, mais il les faisait quand même.
Pour ceux qui ont vu la série. Francesco Saracino.
Moi je suis tout à fait d'accord qu'il y a ça. Il y a l'autre outil dont on pourrait discuter, c'est en fait la monétisation de la dette publique, d'une partie de la dette publique des États. En fait, la Banque centrale a dans un État, là, ça, c'est où les difficultés viennent en Europe, parce qu'en Europe, la Banque centrale, elle couvre plusieurs États. Mais la Banque centrale, c'est tout simplement une des branches du gouvernement, de quelque manière. Donc, c'est un des deux acteurs publics. Donc, on pourrait imaginer que si la Banque centrale achetait des titres et il les gardait à toujours, donc des titres, par exemple, qui n'ont pas d'échéance, du coup, on ne ferait autre chose que substituer de la dette publique en forme de titre, avec de la dette en forme de monnaie, qui est la dette de la Banque centrale de l'économie. Et l'avantage serait qu'on soulagerait les pays, parce que les finances publiques des pays seraient en meilleure forme, et que on éliminerait un peu les risques liés à l'émission de dettes publiques. Donc c'est aussi un instrument qu'on n'a pas encore utilisé, que quelques-uns évoquent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle en pense, elle est beaucoup plus compétente que moi sur ça. Mais il y en a d'instruments. Mais ce que je voulais dire avant, en disant qu'elle était à bout de course, la Banque centrale, que tout ça, c'est des mesures extraordinaires qu'on peut faire pour un temps. Mais après, il y a un problème de comment soutenir la croissance à long terme. Donc, du coup, déjà investir dans les bons secteurs, et donc, du coup, la croissance verte, les green bonds et tout ça. Donc, tout ce qui est mettre des ressources sur dans des secteurs qui mènent à de la croissance à très long terme, donc avoir un peu plus les regards figés sur le futur et pas sur le présent. Et puis avoir chacun des acteurs de l'économie qui recommence à faire sa part. Donc, d'un côté, les gouvernements, et de l'autre, dans plusieurs pays européens, aussi la dépense privée qui n'arrive pas à augmenter.
Jezebel Coupé-Soubéran, compte tenu de la situation actuelle, du fait qu'aujourd'hui, peut-être, la BCE n'a plus autant de marge de manœuvre qu'avant, et que désormais, les États doivent prendre un petit peu le relais de tout ça. On l'a entendu dans la bouche de Mario Draghi, qui a dit, voilà, il faut que les États fassent de la relance. On l'a entendu déjà dans la bouche de Christine Lagarde, donc on sent bien que ça va aussi être une préoccupation dans les mois qui viennent, sauf qu'on l'a dit aussi, il y a un certain nombre d'États qui ne sont pas prêts à faire de la relance. D'autres sont peut-être prêts à le faire, d'ailleurs la France peut-être de ce point de vue-là a peut-être compris que justement il fallait aller un peu plus en avant dans cette question-là. Et d'ailleurs précisément, on risque là pour 2020, on ne respectera pas précisément la règle des 3%. Est-ce que on est dans un moment, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de cette idée de savoir s'il faut revoir ou pas les règles budgétaires. Est-ce que vous pensez que là, à terme, on va revenir sur cette fameuse règle des 3%, assouplir un peu les règles budgétaires européennes? Oui. Est-ce que ça vous semble aujourd'hui indispensable? Première question. Et autre question qui va avec, est-ce qu'il y a un souci d'effort de coordination de l'ensemble? Parce que on a des pays qui sont à fond pour la relance, on a d'autres pays qui sont vraiment très à cheval sur l'austérité, et résultat, chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin, mais il n'y a pas de coordination, d'harmonisation justement, alors que on pourrait considérer effectivement qu'il faut faire un choix, mais faisons tous le même choix d'une certaine manière pour que ça soit efficace. Isabelle Coupé-Soubéran.
Bon, alors il y a effectivement depuis la mise en place de la monnaie unique, depuis 1999, il y a un vrai problème de politique économique en zone euro qui est que, au fond, tout repose sur la politique monétaire. Et on n'a pas suffisamment cherché à construire ce qu'on appelle, dans le jargon des économistes, un policy mix, c'est-à-dire une combinaison de politiques économiques qui permettent d'affronter à la fois des chocs qui touchent tout le monde et puis des chocs différents selon les pays et qui permettent aussi aux pays individuellement de s'ajuster. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est la politique monétaire unique coordonnée avec des politiques budgétaires nationale, coordonnée au niveau européen. Alors, bien sûr, en théorie, il y a quand même une coordination.
Il y a des règles.
Il y a des fameuses règles budgétaires. Et puis, il y a une coordination via le semestre européen. Tout cela a été ensuite à évoluer avec le six-pack, le two-pack, qui essaie de mettre en pratique ces règles, de coordonner l'ensemble. Mais systématiquement.
Il n'empêche que certains font de la relance et certains font de l'austérité.
Oui, enfin, surtout, presque tout le monde fait de l'austérité,
oui,
à vrai dire.
Alors,
évidemment, le jeu est faussé
mais par choix souverain.
Le jeu est faussé parce que quand on fait le choix de l'austérité quand ça va mal, au fond, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une dégradation des finances publiques. Donc c'est très malvenu au fond, parce qu'on rate complètement l'objectif dans un contexte de ralentissement conjoncturel de la zone euro, de taux extrêmement bas. Alors des taux bas portés évidemment par les politiques monétaires non conventionnelles, mais aussi par des aspects plus structurels, le vieillissement de la population, le ralentissement de la productivité. Et tout ça fait que les taux vont rester bas très très longtemps. Dans ce contexte-là, eh bien finalement tout est réuni pour qu'il y ait des programmes de relance budgétaire. On a besoin d'investir dans l'éducation, dans la santé, dans la transition écologique. Il y a un vrai besoin au niveau des pays européens pour faire cela. Et en outre, si vous voulez, ces actions budgétaires, elles construisent du vivre ensemble. C'est ce qui manque pour réintégrer la zone euro. Donc oui, il y a des résistances, il y a des réticences. Elles sont notamment allemandes. Les Allemands porteront à terme une lourde responsabilité dans le dysfonctionnement de la zone euro qui, si on n'y remédie pas, finira finalement par un éclatement.
Francesco Saraceno.
C'est difficile d'intervenir parce que je partage tout ce que Isabelle a dit à la virgule près, en fait. En fait, il y a synchronisation des politiques budgétaires en Europe. C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est une synchronisation qui est faite par la règle et qui est une synchronisation toujours faite à la baisse. C'est-à-dire, on se coordonne sur les politiques.
Pour dépenser moins.
Qui sont des politiques d'austérité. Tout ça, ça ne vient pas de nulle part. En fait, c'est les portées d'une doctrine qui était très ancrée dans la pensée économique dans les années 90, qui était une doctrine qui disait que fondamentalement, la politique budgétaire avait très peu de rôle à jouer dans la stabilisation de l'économie et que la plupart de la stabilisation se faisait surtout par les marchés, par les forces des marchés. Donc là, du coup, on insistait tout le temps sur les réformes. Et de façon ponctuelle par la politique monétaire. Donc, la politique budgétaire avait été expulsée de la boîte à outils du policy maker, du décideur. Donc tout ça, ça s'est fait. On se coordonne sur des règles qui sont des contraintes fortes à la politique budgétaire. Tout le monde a fait la même chose depuis 2010. Et s'il y avait des justifications pour demander aux pays de la périphérie de la zone euro, par exemple la Grèce, par exemple l'Espagne, par exemple l'Italie, par exemple le Portugal, de faire de la consolidation budgétaire, il aurait fallu qu'en même temps, les pays qui étaient dans une situation très différente poussent pendant que les autres étaient en train de freiner. Et là, on s'est tous coordonnés et tout le monde a freiné. Et donc, du coup, la zone euro, par ailleurs, a eu la seule grande économie du monde qui a eu deux récessions. Une en 2008 avec tous les autres, et une autre en 2012-2013. Et la deuxième, c'était complètement infligé à nous-mêmes, et c'était complètement non nécessaire, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, il y a besoin de coordination sur des politiques qui soient coordination et pas synchronisation. Donc, chacun doit faire sa part pour obtenir un but commun. Et le but commun, c'est exactement ce que disait Isabelle, c'est relancer la croissance à long terme. Et il y a plein de secteurs dans lesquels aujourd'hui on a un manque désespéré de capital public. Surtout pour que on attire les capitaux privés et l'investissement privé. On a longtemps pensé que l'investissement public aurait un effet d'éviction, c'est-à-dire on prendrait la place de l'investissement privé. En fait, c'est exactement le contraire. L'investissement public amène l'investissement privé. Et donc, encore une fois, chaque acteur doit faire sa part. Et alors, je suis totalement d'accord, il y a une lourde responsabilité de deux ou trois pays. Moi, j'y mets aussi les Pays-Bas. Mm-hmm. Il y a deux ou trois pays...
Mais qui sont très hostiles aussi.
Qui sont très hostiles à l'idée que la politique budgétaire redevienne un outil de la politique monétaire et économique.
Et très hostile d'ailleurs à l'idée qu'on mette en place un véritable budget européen commun, et c'est justement ce qu'on va aborder maintenant. Il y a un certain nombre de responsables politiques qui ont appelé de leur vœu à avoir un véritable budget européen conséquent. C'est le cas par exemple d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il disait justement autour de cette ambition de construire ce budget européen, c'était au mois de juin dernier.
De fait, aujourd'hui, cette fonction d'un budget est remplie par le ME, le mécanisme en effet européen que je rappelais tout à l'heure et que nous avons modifié. Mais ce dispositif, on le voit, n'est pas complet. Et donc il nous faudra aussi poursuivre cette fonction de stabilisation. Et c'est pourquoi le texte d'aujourd'hui a fait l'objet d'un consensus. Il va dans la bonne direction. Il permet d'avancer en ligne avec nos conclusions de décembre. Mais il n'est pour moi qu'une étape. Et la nouvelle commission, comme les cinq années qui viennent, doivent nous permettre de porter, d'aller beaucoup plus loin sur ces ambitions, d'aller au bout de la fonction de stabilisation, d'acter évidemment la réforme du mécanisme européen, mais de bâtir un véritable budget avec gouvernance propre et financement suffisant.
Voilà, qu'une étape, disait-il, Isabelle Coupé-Soubéran, parce qu'en réalité, ce qu'il visait, Emmanuel Macron, il n'a pas réussi à l'atteindre. Les plusieurs points de PIB pour ce budget européen commun, on est très très loin du compte. Alors effectivement, on s'est mis d'accord sur un outil budgétaire. D'ailleurs, c'est même pas un budget commun, c'est un outil budgétaire. Tellement on ne veut pas parler de cette idée d'un budget commun. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation économique, du fait peut-être qu'on est arrivé au bout en termes de politique monétaire, est-ce que vous avez le sentiment que oui, effectivement, on pourrait aller vers un véritable budget européen commun? Est-ce que vous avez le sentiment que la nouvelle commission qui va arriver là bientôt en place avec Ursula von der Leyen est aussi encline à aller dans ce sens-là? Bref, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on a raison d'y croire?
Mais tant qu'on n'a pas, au fond, un budget commun conséquent, et tant qu'on ne s'oriente pas vers une véritable union budgétaire, l'union reste incomplète. C'est-à-dire qu'on a une union monétaire, on a branché sur cette union monétaire un peu tardivement, on aurait dû le faire bien avant, on a branché une union bancaire. Il a fallu la crise des dettes souveraines pour qu'on y parvienne. Et là, on est toujours aussi hésitant à brancher sur tout cela une union budgétaire.
Qui est hésitant et pourquoi ?
Alors, les Allemands sont tout à fait hésitants à organiser, si vous voulez, des transferts budgétaires au sein de la zone euro. C'est-à-dire que ils restent avec l'idée que chacun doit exercer sur lui-même une discipline budgétaire et ne voit pas la nécessité d'organiser des transferts budgétaires.
Pas de solidarité économique pour l'Allemagne.
C'est ça, mais une union, c'est un partage. Donc, c'est un c'est aider ceux qui en ont besoin quand ils ne vont pas bien. Et d'ailleurs, on a une vision très asymétrique des déséquilibres en zone euro, parce que on a souvent pointé les déficits des pays dits de la périphérie, des pays d'Europe du Sud. En revanche, les excédents allemands, ce sont des déséquilibres comme les autres. Et ces déséquilibres-là, eh bien, on ne les a pas suffisamment pointés. Donc, il y a bien des rééquilibrages à faire qui vont dans les deux sens. Et il faudrait que les Allemands, effectivement, arrivent à changer l'état d'esprit.
J'entends
à ce propos.
C'est ce que vous attendez. Mais est-ce que vous sentez que l'Allemagne, effectivement, est prête pour cela? Francesco Saracino.
Non.
Non.
Non, mais je m'explique.
La réponse est claire.
Je m'explique parce qu'en fait, là on est, à mon avis, dans un moment crucial aussi du point de vue de la méthode. C'est-à-dire, il y a deux philosophies, deux visions du monde qui s'opposent. Et la première est celle qui est propre, disons des Allemands pour simplifier un peu, qui dit que en fait la zone euro dans son ensemble est robuste si chacun des pays est robuste et capable de réagir au choc. Donc il y a une résilience, si vous voulez, de la zone euro qui est faite par la résilience du plus faible. Donc chaque pays doit trouver à son intérieur les conditions de stabilité. Et donc il n'y a pas besoin qu'il y ait des transferts et des mécanismes de solidarité parce que chaque pays doit être discipliné. Et il y a une autre vision qui dit que même avec toutes les conditions du monde, même avec toute la discipline budgétaire, avec les marchés qui arrivent à faire leur travail de rééquilibrage, même dans ces cas-là, il y a quand même besoin des transferts pour absorber ce qu'on appelle les chocs asymétriques, c'est des chocs qui frappent un pays et pas un autre, ou des pays dans des directions différentes. Ces deux visions sont incompatibles l'une avec l'autre. Les projets de budget qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est un projet qui essaie de marcher, comme on a toujours fait en Europe, sur le compromis, faire un peu de l'un, un peu de l'autre. On peut pas avoir un peu de partage du risque et un peu de réduction du risque, c'est le nom qu'on donne à ces deux choses. Donc il faut un choix dans une direction ou dans l'autre. Et aujourd'hui, les choix qu'on a fait, Macron fait son job et il est optimiste, mais les choix qu'on a fait, c'est plutôt dans la direction des Allemands, c'est-à-dire tout le monde est d'accord qu'il faut un budget européen, c'est une boîte vide. Qu'est-ce qu'on met dans la boîte? Aujourd'hui, on y met tout simplement de l'aide aux pays qui font des réformes, et donc de l'aide des pays qui s'occupent de leur propre stabilité sans mettre en commun des ressources pour absorber des chocs asymétriques. Il y avait un mot stabilisation qui a traîné un peu dans les projets pendant quelques mois entre novembre et décembre et janvier et juin de l'année dernière. Ce mot stabilisation est sorti du projet. Aujourd'hui, on ne parle même pas de stabilisation. Donc le rôle d'absorber les chocs asymétriques, il est complètement négligé. Donc on aura de l'argent qu'on met à disposition des pays qui veulent faire des réformes et qui ont des coûts pour mettre en place ces réformes, et pas plus que ça.
Donc, on a un peu assoupli les conditions justement d'accès de ces lignes de crédit, du mécanisme.
Exactement. Et du coup, la solidarité dont parlait Jezebel, qui est, je répète, ce n'est pas une question d'être gentil, c'est une question de bon fonctionnement d'une zone intégrée qui ne peut pas se baser seulement sur les forces des marchés pour absorber les chocs asymétriques. Donc cette solidarité est nécessaire pour le bon fonctionnement. Mmh, ce n'est pas... Mmh. On est gentil, on est méchant. Hein? Mmh, mmh. Cette solidarité, il faudrait peut-être changer les termes, trouver un autre terme, parce que solidarité donne un côté moral qui n'a pas. C'est un outil qui est nécessaire pour le fonctionnement. Cette solidarité, aujourd'hui, on ne veut pas la mettre en place.
Rééquilibrage, peut-être. Jezebel Coupet-Soubeyran, puis dans quelques instants, on va accueillir une nouvelle invitée. On va parler de la politique industrielle européenne qui, elle aussi, a du mal à se mettre en place. Je vous laisse réagir, mais il y a peut-être un point sur lequel j'ai envie de vous entendre avant qu'on passe à l'industrie, c'est celui de l'union bancaire, parce que ça va être l'un des chantiers pour Christine Lagarde. On a évidemment en tête la crise financière économique de 2007-2008. On se dit qu'un choc bancaire est toujours à craindre. Alors on sait qu'évidemment on a pris un certain nombre de mesures, on a mis des outils en place pour se prémunir, pour renforcer les banques, mais on se demande si ça a suffi, ce qui reste aujourd'hui à faire, et si demain il arrivait un nouveau choc, est-ce que notre système bancaire européen, il tiendrait le coup?
Alors, cette union bancaire, elle a commencé à être mise en place en 2014, donc après la crise des dettes souveraines. Et c'est intéressant de remettre ça dans le contexte parce que ça veut dire quand même qu'il a fallu un choc important, une menace en fait, hein, vraiment une menace d'éclatement de la zone euro pour que on arrive à mettre en place quelque chose qu'on pensait totalement totalement irréalisable. C'est-à-dire que aucun des superviseurs bancaires nationaux n'était prêt finalement à renoncer, hein, initialement à ses prérogatives. Donc avec l'union bancaire, eh bien au moins aujourd'hui, on surveille à une échelle européenne les grands établissements de la zone euro. On a, alors ça, ce volet-là, c'est le premier volet, ça fonctionne plutôt bien. C'est la Banque Centrale Européenne qui est devenue le superviseur en chef des grandes banques de la zone euro. Il y a un deuxième volet sur lequel, alors qui a commencé de fonctionner, mais sur lequel on a un petit peu plus de doutes, c'est le mécanisme de résolution des difficultés des banques qui vise à mobiliser davantage les actionnaires et les créanciers en cas de problème. Ça, c'est donc le mécanisme dit de résolution. On a un peu de doutes parce qu'en fait, ça fonctionnera sans doute pour des petits établissements, mais pour les très grands, difficilement. Et puis, il y a le troisième volet, alors celui qu'il faudra terminé. Et là, il y a encore du travail. Et tant qu'il n'y aura pas d'union budgétaire, je pense que ce troisième volet ne pourra pas être finalisé. C'est la mise en place d'un dispositif européen de garantie des dépôts. Il y a des dispositifs nationaux de garantie des dépôts. Si votre banque fait faillite, vous êtes remboursé jusqu'à 100 000 euros de dépôts par personne et par établissement. Mais on n'a pas un fonds européen de garantie des dépôts avec des ressources communes mises dans ce fonds.
On peut faire l'union bancaire qu'on veut, si on n'a pas derrière de l'argent un fonds commun.
Exactement. Alors, s'il n'y a pas d'union budgétaire, de toute façon, on n'arrivera pas à finaliser cela. Donc, cette union bancaire reste à finaliser. Ce sera pas du ressort de la Banque Centrale Européenne, même si elle a un pied dedans en s'occupant, en supervisant les grandes banques de la zone euro.
Et la BCE a appelé pour ses troisième volets depuis le début, hein, ils ont toujours eux-mêmes dit que c'était incomplet sans le troisième volet.
Allez, passons peut-être à la politique industrielle commune. On était avec vous, Isabelle Coupé-Soubéran, et vous, Francesco Saraceno. On va parler tout de suite donc de cette politique industrielle.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Parce que face au développement croissant de l'industrie asiatique, et notamment chinoise, aux annonces protectionnistes de Donald Trump, le temps du changement s'impose en Union européenne en matière de politique industrielle. Et pourtant, il semble qu'on n'aille pas véritablement dans ce sens-là. Souvenez-vous, par exemple, de ce rejet de la Commission au début de l'année de la fusion Alstom-Siemens, qui souhaitait, voilà, créer ce géant européen du ferroviaire. Eh bien, c'est manqué.
Notre enquête a montré que la fusion réduirait considérablement la concurrence dans plusieurs marchés relatifs à la signalisation et aux trains à très grande vitesse. La société ainsi fusionnée serait devenue de loin le plus grand acteur en Europe et, dans certains marchés concernant la signalisation, il n'y aurait plus eu de concurrence du tout. Pour être clair, c'est bien d'être grand. Ce n'est pas la question ici. Mais nous avons trouvé ici que la concurrence d'autres fournisseurs aurait été insuffisante pour pallier le manque considérable de concurrence suite à cette fusion.
Voilà, au nom de la libre concurrence, et ce qui est évidemment tout à fait louable, on avait rejeté cette fusion Alstom-Siemens. Est-ce que ce précédent pourrait servir de leçon? Bonjour Anne-Sophie Alsif.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef de projet à la Fabrique de l'Industrie. Vous aviez co-écrit une note de l'OFCE intitulée « L'industrie a-t-elle besoin de l'Union européenne ?» C'est un peu la question qu'on va se poser ce matin. On va revenir évidemment sur ce cas de Alstom-Siemens parce qu'il révèle un certain nombre de choses. Mais d'abord, un mot quand même sur l'actualité, Anne-Sophie Alsif, parce que celui qui normalement devrait à l'avenir s'occuper des questions industrielles, c'est un Français, c'est Thierry Breton, puisque Sylvie Goulard a été écartée par les eurodéputés. Il devrait conserver ce très large portefeuille originel de cette politique industrielle, le marché intérieur, les dépenses de défense et puis les hautes technologies et de l'espace. Même question que tout à l'heure avec Isabelle Coupé-Soubéran et Francesco Saraceno. Est-ce qu'il a le bon profil pour conduire la destinée de la politique industrielle européenne?
Alors après, je pense en effet qu'il a un profil tout à fait intéressant parce qu'il connaît très bien les secteurs, il connaît les enjeux, il a, un profil qui est assez polyvalent, que ce soit sur l'analyse du marché européen global et de savoir quels sont les enjeux, de quoi l'Europe a besoin et surtout comment se positionner par rapport à la concurrence internationale, les États-Unis mais surtout la Chine. Donc là, je pense que cette vision aujourd'hui l'Europe en a énormément de besoin. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui connaît bien l'industrie. Donc je crois en effet que c'est un bon profil.
Alors venons-en à ce rejet de projet de fusion entre Alstom et Siemens, qui donc souhaitait créer ce géant européen du ferroviaire. Ça révèle ce rejet, évidemment, l'existence au sein de l'Union européenne d'une vraie opposition à cette ambition de mettre en place une politique industrielle commune. Évidemment, l'argument de la commissaire Margrethe Vestager à l'époque était tout à fait recevable. Et donc on peut comprendre qu'il y avait un problème sur la question de la libre concurrence. Il n'empêche que si le Conseil avait été extrêmement favorable à cette fusion, il est très probable qu'elle aurait eu lieu. Alors, d'où vient l'opposition? Quels sont aujourd'hui les États membres qui, au fond, considèrent qu'il n'est pas nécessaire, pas souhaitable de mettre en commun les capacités industrielles de l'Europe?
Alors, et pourquoi? Je pense qu'il y a... Il y a plusieurs choses par rapport à ça, et la première, c'est la question de la finalité. Le problème est que lorsque le marché européen a été créé, la finalité des règles qui ont été mises en place, et donc la politique de la concurrence, ça a été de protéger le consommateur européen, de faire qu'il y ait de la concurrence sur ce marché pour que le consommateur, en termes d'offre de produits, en termes de prix, en profite. Et en ça, la politique de la concurrence européenne atteint tout à fait ses objectifs. C'était vraiment la finalité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en effet, l'environnement international a changé. Aujourd'hui, vous avez de nouveaux acteurs, notamment la Chine, qui ont des stratégies différentes, qui sont montées en gamme, un pays qui devient une véritable puissance industrielle. Et donc, la montée de ces nouveaux concurrents fait justement de cette fameuse politique de la concurrence qui était instaurée dans la finalité de protéger le consommateur européen, fait question, fait débat. Et donc,
Débat au point, Anne-Sophie Alsif, de s'interroger sur la réécriture peut-être des règles de concurrence en Europe.
Donc, c'est ça le problème, c'est que donc du coup, on a ces différentes règles qui ont été précédemment instituées, donc ce qui explique pourquoi la fusion a été rejetée, puisque dans ce contexte-là, c'est normal, puisque la finalité est le consommateur européen, et tout d'un coup, on dit, bah voilà, il y a de nouveaux entrants, que deviennent les producteurs européens, comment on peut faire concurrence, essayer de répondre à cette concurrence internationale. Il n'y a pas de grande entreprise européenne qui peut faire concurrence, par exemple, à la Chine. Il y a de nouveaux enjeux. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être gros. Et là, le problème, c'est qu'on fait, on met une nouvelle finalité qui n'était pas dans l'esprit de la politique de concurrence quand elle a été décidée. D'où, à chaque fois, bah, ce débat et cette ambivalence qui est, en effet, pas évident à traiter aujourd'hui par rapport aux enjeux.
Alors, je repose la question à Anne-Sophie Alsif. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à réécrire ces règles de concurrence en Europe?
Alors, voilà, c'est ça tout le débat.
C'est le cœur du problème.
C'est le cœur du problème, tout à fait. Alors, le problème, c'est que c'est la première question. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, donc, du coup, intellectuellement, notre finalité, c'est de protéger le consommateur européen, ou est-ce que c'est le producteur européen? C'est quand même la première des questions. Voilà, donc déjà, il faut se mettre d'accord là-dessus. Deuxième chose, en Europe, tous les pays ne sont pas des puissances industrielles. La première puissance industrielle, c'est l'Allemagne, ensuite vous avez l'Italie, ensuite vous avez la France. Beaucoup d'autres pays sont des pays plus petits, avec un marché plutôt de services, de consommation intérieure. Donc tous les pays et tous les États membres n'ont pas les mêmes objectifs d'avoir cette politique industrielle commune, n'ont pas les mêmes intérêts. Donc ça, c'est aussi un autre point. Et troisième point, c'est de se dire il faut redéfinir ces filières stratégiques d'avenir. En disant, voilà, avec la révolution technologique, la révolution environnementale, où l'Europe doit être autosuffisante, où l'Europe doit être capable d'avoir des géants pour être autonome par rapport à aux concurrents internationaux, notamment dans le cadre du protectionnisme, comme vous l'avez dit. Donc, voilà, c'est des grandes questions que la nouvelle commission aura à se poser et qui demandent, qui vont susciter beaucoup de débats entre les États membres, parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas du tout les mêmes enjeux.
Alors, se poser des questions, Anne-Sophie Alsif, c'est formidable, c'est évidemment une très bonne chose, sauf que ce que montre l'histoire, c'est que en matière industrielle, celui qui s'impose, c'est celui qui est le plus rapide. Donc, tant qu'on se pose des questions, on fait pas de choix. Or, en la matière, on voit bien qu'on n'arrive pas à mettre en place une politique industrielle commune. Et est-ce que finalement, du coup, compte tenu de cette leçon, est-ce que finalement, ceux qui ont raison en Europe, c'est pas ceux qui précisément considèrent qu'il vaut mieux miser sur une industrie nationale?
Alors,
compte tenu de l'inertie de l'Europe qui de toute façon, alors, finalement, est-ce que les États n'ont pas raison de penser leur politique industrielle au niveau national?
parce que justement, bon, avec ces nouveaux concurrents, vous avez quand même l'Allemagne et la France qui ont justement essayé de prendre le sujet, et vous avez le ministre Altmaier ou Bruno Le Maire qui ont fait des propositions pour créer justement, par exemple, l'Europe des batteries, donc faire qu'il y ait des géants européens dans le domaine des batteries, notamment pour l'automobile, pour justement s'affranchir de la concurrence asiatique. Donc il y a une prise de conscience qui existe, il y a la volonté en France, en Allemagne, de coopérer sur beaucoup de projets. Donc,
oui, mais c'est pas l'Europe, c'est quelques pays, c'est pas l'Europe, c'est quelques pays.
C'est en effet. Alors
c'est sur le modèle Airbus en réalité.
Qui, voilà, ouais. Tout à fait.
Mais ça fait pas une politique industrielle commune.
Oui. Voilà, exactement. Ouais, c'est des avancées, mais on n'est pas encore, on n'arrive pas à ça. Et puis l'autre problème que vous soulevez très bien, c'est que vous avez en face la Chine, qui est un capitalisme d'État qui est excessivement puissant. C'est-à-dire que vous avez un plan qui va être mis en œuvre, le Made in China, qui a pour objectif de faire de la Chine la première puissance industrielle d'ici 2049. Et vous avez des milliards qui sont investis avec une force de frappe excessivement rapide, réactive, en disant quelle filière on veut, et voilà, on veut être autonome et indépendant. C'est sûr que l'Europe n'a pas cette force de frappe et cette réactivité dont vous parlez, qui est un de ses points négatifs, en effet. D'où l'idée de faire une politique nationale, mais avec toujours la limite que face à ces gros concurrents, c'est sûr qu'au niveau national, vous avez moins de leviers. Après, en effet, c'est une solution dans certains secteurs stratégiques, dans certains éléments des chaînes de valeur, essayer de vous spécialiser dans des milieux de gamme à très forte valeur ajoutée, d'essayer d'exporter. C'est en effet une option qui peut être envisagée.
Et alors justement, cette option un peu intermédiaire qui est... Cette option un peu intermédiaire qui est une collaboration entre quelques États membres, qui est pas vraiment supranationale au sens de l'ensemble de l'Union européenne, est-ce qu'elle vous semble viable, par exemple, sur la question des batteries électriques? Effectivement, il y a des efforts communs entre la France, l'Allemagne, la Suède, etc., etc. Est-ce que cette mise en commun peut suffire justement à aller rivaliser avec les géants mondiaux?
Moi, je pense qu'elle peut suffire, parce qu'en effet, pour les batteries, pour véhicules électriques, il y a pour le stockage d'électricité éolienne et solaire. Et puis l'avantage que l'on a, c'est qu'on a deux révolutions énormes qui nous attendent, qui sont vraiment la révolution environnementale et technologique. Et comme vous le savez, dès qu'il y a des révolutions, avec la destruction créatrice, vous avez des choses qui disparaissent, mais aussi plein de nouvelles opportunités qui apparaissent. Et là, justement, ces coopérations européennes, c'est un objectif de prendre des marchés, de peut-être prendre des parts de marché et de s'imposer. Donc oui, je pense qu'on peut si on essaie, on fait ces coopérations.
Tout dernier mot avec deux invités ici, Jezabel Coupé-Soubéran et Francesco Saraceno. On arrive presque au terme de cette émission, donc je demande une réponse courte, mais je veux quand même vous faire réagir en guise de conclusion. Allez, qui commence?
Francesco Saraceno. Très rapidement, la façon de sortir de cette espèce de dilemme entre les consommateurs et les producteurs, c'est de concevoir la politique industrielle au sens large. Donc la politique industrielle, ce n'est pas que décider de protéger ou pas la concurrence, mais c'est aussi investissement, technologie, choix des secteurs qui sont porteurs des croissances futures, encore une fois transition écologique, et ainsi de suite.
Jezabel Coupé-Soubéran.
Oui, je suis tout à fait d'accord là, avec ce que vient de dire Francesco. Il faut voir le contexte en fait dans lequel l'industrie européenne peut se déployer. Donc il y a des aspects de financement sur lesquels il faut revenir. C'est important que le financement de l'industrie et que le financement corresponde à la fois, si vous voulez, à des grandes et des petites entreprises. Il y a des aspects de demande. Il faut que les carnets de commandes de ces industries soient importants. Ça, on retombe sur la nécessité d'une action budgétaire. Il y a également cette transition vers une économie bas carbone qui est absolument indispensable, vers laquelle il faut essayer d'amener l'industrie européenne.
Merci beaucoup à vous, Jezabel Coupé-Soubéran. Je rappellerai notamment Blabla Banque, pas évident à dire, hein, le discours de l'inaction, c'était chez Michalon. Parlons banque en 30 questions avec Christophe Nijam, c'était à la Documentation française. Un grand merci également à vous, Francesco Saraceno. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du département d'études de l'OFCE. Et puis je remercie également Anne-Sophie Alsif qui était avec nous par téléphone, qui est chef de projet au think tank La Fabrique de l'Industrie. 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian Delorme.
Alors en fond sonore, on entend en ce moment le groupe Suicide dans un morceau minimaliste et un tout petit peu angoissant. Qu'est-ce que c'est? C'est du rock, ça date de quand?
1977, post-punk. Et à en croire Sylvain Fanet qui vient de publier un guide des 100 meilleurs disques estampillés New Wave, ce serait le premier à mériter ce label. Ce livre s'intitule Standing on the Beach, mais c'est en français. Une formidable occasion pour ceux qui ont vécu cette époque mémorable de l'histoire du rock de redécouvrir des joyaux quelque peu oubliés, pour ceux qui ne l'ont pas connu, et ben de faire des trouvailles. Alors nous allons le parcourir, ce bouquin, en musique aujourd'hui et demain. Mais d'abord, comment définir la New Wave autrement que le rock qui est venu juste après le punk? Et ben c'est un fourre-tout où l'historien du rock fait coexister des musiques aussi différentes que celles de Joy Division et de Police pour l'Angleterre, des Talking Heads et de Père Ubu pour les États-Unis. Toute cette affaire commence à la fin des années 1970 et elle va progressivement contaminer le rock durant toute la première moitié des années 80. C'est donc, si vous voulez, le son d'une époque. Et d'abord, cette affaire de post-punk. La New Wave s'est distinguée du punk par des prétentions intellectuelles totalement absentes, vous imaginez, du primitivisme et du nihilisme qui étaient revendiqués par les punks. Ceux-ci, eh bien, ils avaient voulu congédier la sophistication dans laquelle s'était engagé le rock dans les années 70, disons le progressive rock, le rock symphonique, King Crimson, etc., etc. Ils avaient lancé leur ricanement sardonique, les punks, aux stars, déjà quelque peu vieillissantes, paraît-il, des 60s, qui étaient, par exemple, les Rolling Stones, une de leurs cibles préférées. Et sur cette table rase, cette espèce de table rase, les groupes New Wave allaient construire des musiques assez sophistiquées, utilisant l'électronique, on vient de l'entendre, les machines à rythme, on vient de l'entendre aussi, et qui mettaient beaucoup la basse en avant. Certains en cultivant le pastiche et le second degré, d'autres en mettant en scène une espèce de dépression collective qui était fort répandue en Grande-Bretagne à la fin des années 70. Souvenez-vous, 78-79, c'est l'époque du Winter of Discontent. L'électricité est coupée une partie de la journée au Royaume-Uni, il y a des piquets de grève devant les hôpitaux, les morts ne sont plus enterrés pour cause de grève des employés des pompes funèbres. Le Royaume-Uni, en proie à la désindustrialisation, réalise qu'il est entré en décadence profonde. Et dans l'opposition, Margaret Thatcher se prépare à briser les reins aux syndicats et à fermer les mines. La météo morale est déprimante. On écoute tout de suite le groupe le plus lugubre de la Cold Wave, qui est donc une des branches de la New Wave, qui avait choisi par dérision le nom de Joy Division. Vous allez voir que c'est pas tellement joyeux. Le groupe venait de Manchester, une ville sinistrée à cette époque. Ian Curtis, le chanteur et parolier du groupe, était mort avant la sortie même du disque. Il s'était pendu dans sa cuisine. On écoute 24 Hours. So this is permanent. What once was innocence turned on its side. A cloud hangs over me, marks every move, deep in the memory. What once was love. Oh, how I realize how I wanted time put into perspective, try so hard to find. Just for one moment thought I found my way, destiny unfolded, I watched it slip away.
« 24 Hours », Joy Division, vous étiez en train de me raconter, Brice.
Oui, le suicide de Ian Curtis, il était épileptique et il a eu des crises d'épilepsie sur scène qu'il n'arrivait pas à contrôler. Et puis par ailleurs, comme on le voit dans le film « Closer » qui est consacré à l'histoire de Joy Division, il était tombé amoureux d'une autre que sa femme et sa femme le quittait. Et il s'est pendu dans sa cuisine. Et quand la pauvre, quand elle est rentrée au petit matin, elle le raconte dans ses mémoires, elle a trouvé Ian Curtis pendu. Le groupe s'est dissous aussitôt, vous l'imaginez.
Standing on the Beach, la New Wave en 100 disques essentiels qui vient de paraître au Mot et le Reste de Sylvain Fanet. On en parlera encore un petit peu demain ?
Ouais, un petit peu encore.
Vous écoutiez, vous, de la New Wave ?
J'ai fait une émission consacrée à ça sur une radio, Radio 7, qui était une des radios de Radio France, qui était un peu l'ancêtre du Move. Une émission qui s'appelait Libre Service tous les dimanches soirs. Et j'étais avec Christophe Bourseiller, les deux éditorialistes de cette émission qui était présentée par Michel Elie. Et voilà, c'était mes débuts radiophoniques, voyez-vous.
Bon, pour la suite de la New Wave, Fabrice Couturier, rendez-vous demain.